Bonjour Jonathan. Je ne sais pas si vous allez être ravi après avoir écouté cette actu philo, parce qu'on est à 8 jours du Vendredi Saint et Caïphe dit en Jean 11, 50, « Il est bon qu'un seul périsse pour tous. » L'actualité nous permet de réfléchir. En Virginie, il y a eu une signature pour l'histoire ce mercredi. Le gouverneur de la Virginie, Ralph Northam, a paraphé une législation abolissant la peine de mort au terme d'une visite d'un centre correctionnel à Jarrett. La conclusion d'un enchaînement de déclarations et de législations approuvées depuis février dans ce sens. En adoptant ce texte, la Virginie est devenue le 23e État américain à cesser de recourir à la peine de mort, mais seulement le tout premier parmi les États du sud du pays réputé favorable à cette pratique. En 1608, le capitaine George Kendall avait été fusillé pour sa participation à une conspiration. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui encore justifier la peine de mort? Jean-Jacques Rousseau? Peut-être. Dans le contrat social, il argumente en faveur de la peine de mort parce qu'elle oblige le souverain, entendez l'État, à exclure le citoyen qui s'est exclu lui-même par un acte hors contrat. L'équilibre est précaire entre la personne et le bien commun, scellé par le contrat social du « nous faire peuple ». Pourquoi ? Le traité social a pour fin la conservation des contractants, écrit Jean-Jacques Rousseau. Ce principe est à double face, commente Bruno Bernardi. Il fait de la conservation de chacun des membres du corps politique la fin commune. Il n'y a rien de si sacré que la vie des simples citoyens. Il implique aussi que la conservation de l'État est le plus important de ses soins. Que ces deux exigences viennent en contradiction et tout s'écroule. Le corps politique ne peut être que voué à la dissolution si chacun, regardant la personne morale qui constitue l'État comme un être de raison, prétend jouir des droits du citoyen sans vouloir remplir les devoirs de sujet. Si ces devoirs de sujet ne sont pas remplis, le gouvernement n'est-il pas alors la pire des tyrannies s'il fait sienne la maxime selon laquelle il est bon qu'un seul périsse pour tous? La vie même du corps social est donc suspendue à la possibilité de faire coïncider la conservation de chacun des membres du corps politique ou contractant de ce contrat social et la conservation de l'État. Mais une telle coïncidence est-elle possible? La peine de mort, qui est l'enjeu ultime de cette question, porte en elle la dissolution du corps politique. Elle ne saurait donc être un acte de justice, tout au plus un acte de guerre. Est-il donc possible de faire coïncider conservation des contractants et conservation du souverain? Même si la peine de mort est un acte de guerre, dans un contexte où Rousseau articule les trois notions de danger, risque et péril à partir de la guerre, il n'en reste pas moins que la peine de mort envisagée comme possibilité fait apparaître la faille de l'équilibre. D'où vient cette faille? C'est, à mon sens, d'avoir réduit la conservation de la vie de la personne humaine à celle de la conservation d'un contractant. La personne humaine transcende la fonction de contractant. Oublier cette valeur absolue de la personne, c'est faire de la politique un contrat avec des entités. C'est donner à la binarité du contrat respecté ou enfreint le critère décisif. Dès lors, cette binarité étant aussi celle de la guerre, avec attaque, défense, vainqueur, vaincu, vie ou mort, rien d'étonnant à ce que la peine de mort soit un acte de guerre. Comment repenser alors nos démocraties? À partir de deux fondements. Le premier réside dans le caractère transcendant de la personne humaine, qui exigerait une alliance plutôt qu'un contrat. Le deuxième, dans la vigilance pour l'État, à fuir la tentation totalitaire latente dans la phrase de Caïphe, « Il est bon qu'un seul périsse pour tous ». Méditons là-dessus à la veille de la Semaine Sainte. Au revoir.